tous qui nous rejoignent dans les studios de Radio Galaxy. C'est l'heure de la 23e émission avec Christian Cayol. Bonjour Christian.
Et bonjour Francis, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui tu nous amènes où on a un titre, Marche à l'étoile, mais ça veut rien dire, ou ça veut tout dire peut-être, qui sait.
Marche à l'étoile, même si elle est trop haute, faut faire la phrase en entier. C'est une phrase qui est tirée d'un livre d'Alexandra David-Néel et qui t'incite à partir, à faire tout, à réussir tous tes projets. Et elle les a réalisés tous ses projets, mais nous en parlerons un petit peu plus tard.
D'accord. Donc, ça ne nous dit pas...
Ça nous dit pas où c'est.
Où c'est j'irai vers la Durance peut-être.
Voilà, c'est à peu près ça. On va planter le décor. Hein. On est entre Durance et Verdon, de Manosque à Digne-les-Bains. Et je vous emmène à la rencontre de personnages extraordinaires et de grands sites naturels.
Comme d'habitude.
Merci. Je sais.
Donc, on commence par quoi? Les grands sites naturels?
On commence par les grands sites naturels. Toute cette région-là, c'est une réserve géologique sur plus de 200 hectares créée en 1984. C'est un véritable musée à ciel ouvert pour ceux qui aiment les cailloux, les fossiles, voilà. Et le but, c'est de protéger et de valoriser ce patrimoine. Sur 18 sites bien précis, bien définis, l'extraction et le ramassage de quoi que ce soit est strictement interdit. Par contre, il y a 59 autres communes dans le parc où on peut ramasser des formes naturellement dégagées. Et c'est toléré en quantité limitée. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut traîner les pieds jusqu'à la voiture pour essayer de ramasser quelque chose.
Oui, c'est clair.
Alors, il y a de nombreux sites à voir, ouverts au public, aménagés, et les circuits sont balisés. Alors, les plus connus, le plus connu certainement, c'est à côté de Digne-les-Bains, c'est la célèbre dalle aux Ammonites, qui date de 200 millions d'années, et elle compte plus de 1500 individus, certains mesurent 70 cm de diamètre, c'est au bord de la route et vous avez la dalle qui démarre au ras du sol, qui monte sur une 15 ou 20 mètres de hauteur. Et donc voilà, ça c'est le premier site à voir. Un peu plus loin, sur la même route, vous avez un ichthyosaure. L'ichthyosaure, ça ressemble à un poisson, mais c'est un reptile. Et on dirait un requin qui aurait des palettes natatoires. Alors celui-là, il faut se le gagner un peu plus. Il faut compter à peu près une heure et demie aller-retour. Moi, je n'y suis pas allé par manque de temps. Mais bon, c'est à voir. Le fossile, il est en pleine nature, protégé par des vitres. Comme aussi, vous avez les empreintes de pas d'oiseaux, qui datent de 20 millions d'années. Elles ont été laissées par les oiseaux dans du sable mouillé, et puis elles se sont fossilisées. Là, vous n'avez pas d'excuse de ne pas y aller. Vous êtes à 10 minutes de la voiture. Alors, toutes ces images... Vous pouvez les voir et je vous incite à le faire. Allez voir ma vidéo sur mon site. Tu allais me poser la question, j'imagine.
Mais bien sûr, mais je te laisse faire.
Je te demande.
Non, vas-y, je t'écoute. Le site, c'est quoi?
Donc, le site, c'est Rando VTT Vidéo. Vous avez l'habitude maintenant. Alors, bien sûr, tout ce qu'on évoque dans cette émission, vous trouverez des images sur ma vidéo et je vous incite à le faire. Vous avez le lien aussi sur le podcast de Radio Galaxy en allant sur radiogalaxy.com. Rubrique découverte, évasion, voilà, et la bougeotte.
Voilà, et on tombe sur toutes les émissions. Mais si vous voulez aussi l'écouter en direct, je vous rappelle que la bougeotte, c'est le premier mardi 9h30, deuxième jeudi 14h30, troisième samedi 17h30 et quatrième dimanche 7h. Voilà. Donc n'hésitez pas à réécouter cette émission. Si vous l'avez pris en cours, cher auditeur, vous allez voir, c'est très très sympa. Okay. La suite, monsieur, s'il vous plaît.
Et la suite, alors, dans cette découverte de sites intéressants, vous avez des clus, en particulier la clue, c'est un mot qui veut dire un petit peu gorge étroite, enfin. Et vous avez la clue de Verdache. Vous y avez une belle cascade qui s'appelle la cascade de la Pie, qu'on prononce Piche, en bord de route. Mais ce qui est intéressant, la cascade est pas mal, ce qui est intéressant, c'est vous retournez et regardez derrière, de l'autre côté de la route. Vous avez un empilement de strates. Bon, alors des strates, oui, mais là quand même, vous avez celle du bas, qui démarre au ras de la route, qui est noire, mais complètement comme du charbon. C'est du carbonifère, moins 300 000 ans. Et puis au-dessus, vous avez une couche de grès clair, qui sont du Trias. Moins de 135 millions d'années. Bon, ben oui, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'une strate est à 300 millions d'années et l'autre est à 235 millions d'années. Pourtant, elles sont l'une sur l'autre. Et qu'est-ce qui manque? Eh bien, il manque 65 millions d'années, c'est tout. 65 millions d'années, c'est toute une époque que l'on appelle le Permien, qui a disparu. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, l'érosion était très forte et tout est parti. Il manque juste, dans l'histoire de la Terre à cet endroit-là, 65 millions d'années.
Oh, c'est rien.
Non, c'est rien du tout. Et puis, regardez mieux encore, vous le voyez sur ma vidéo, et si vous y allez, regardez mieux, vous avez des panneaux explicatifs, ils vont le dire. Eh bien, les strates ne sont pas parallèles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, il y a eu un mouvement tectonique à ce moment-là, et les strates ne se sont pas empilées l'une sur l'autre, il y a un décalage. Alors, quand les strates disparaissent, on appelle ça une lacune, et le fait qu'elles aient bougé, on appelle ça une discordance. Voilà. On ferme la parenthèse géologique, mais c'est vraiment un coin à faire de la géologie. Alors, maintenant, j'aimerais vous parler, on l'a évoqué en début d'émission, avec Alexandre. Voilà, j'aimerais vous faire découvrir ce personnage hors du commun. Déjà, on peut visiter sa maison-musée à Digne-les-Bains, pour faire connaissance. Alexandra David-Nel a une vie pas comme tout le monde. Elle est née en 1868. Elle est morte à 101 ans en 1969. Alors, elle a commencé par être chanteuse d'opéra. Puis, journaliste, écrivaine, féministe, théosophe. Théosophe, ça veut dire un système philosophique un petit peu ésotérique, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais pour comprendre son cheminement, franc-maçonne, exploratrice parlant de nombreuses langues, d'une grande, très grande érudition, orientaliste, tibétologue, passionnée par les philosophies bouddhistes et hindouistes. Déjà, le personnage, on se dit, c'est vraiment quelqu'un, celle-là.
Ouais, oui. C'est clair.
Elle part pour la troisième fois en Inde, en 1911. Elle y était allée d'autres fois, en particulier comme chanteuse d'opéra, et puis pour d'autres choses, mais bon, voilà. Et elle part en 1911 pour un voyage de 18 mois. Elle n'en reviendra que 14 ans plus tard. Au cours de ce voyage, elle se retire. J'essaye de faire court, hein, mais bon, parce qu'il y en a des épisodes.
Oui, j'imagine.
Elle se retire avec un fils qu'elle a adopté dans une caverne à 4000 mètres d'altitude, pour vivre en ermite. Elle apprend le tibétain. Le sanskrit. Sanskrit, c'est une langue ancienne qui sert surtout pour écrire les textes religieux bouddhistes sur des plaquettes. Ouais. Voilà, le sanskrit. Donc elle le lit et elle le parle. Elle est reconnue aussi bien par les autorités bouddhistes que politiques. À plusieurs reprises, elle se rend au Tibet. Bien sûr, sans autorisation. Là, elle est reconnue. Elle reçoit les titres honorifiques de lama et de docteur en bouddhisme tibétain. Ensuite, avec son fils adoptif, elle part en Corée. Elle traverse la Chine d'est en ouest, le Gobi. Elle s'arrête 3 ans dans un monastère. Puis, déguisée en mendiante, accompagnée de son fils grimé en moine, elle est la première femme à entrer à Lhasa, qui est cité interdite aux femmes, en 1924, où elle reste 2 mois. Un peu plus tard, exténuée, sans argent, en haillon, elle est hébergée par un ami, qui lui procurera des papiers, de l'argent pour rentrer en France, où elle fera la une des journaux. À ce moment, elle dira « On m'offrirait 1 million pour recommencer l'aventure, dans les mêmes conditions, je crois bien que je refuserai. » En 1928, elle s'installe à Digne où elle achète une maison, qu'elle transforme en premier monastère lamaïste et sanctuaire en France. Les années passent, 9 ans plus tard, en 1937, elle décide de repartir pour la Chine, pour étudier le taoïsme. Eh bien, elle était vraiment...
Elle était là-dedans. Hein.
Ah oui, complètement. Elle tombe en pleine guerre sino-japonaise. Alors elle passe au Tibet pour une retraite et finalement elle ne reviendra que 9 ans plus tard. Alors, à ce moment-là, elle s'installe... Elle a 78 ans. Ouais. Elle s'installe dans sa maison à Digne-les-Bains où elle vit en toute simplicité. Elle publie et donne des centaines de conférences. Elle est l'auteur d'une 40aine d'œuvres consacrées à ses récits de voyage au bouddhisme et au Tibet. Alexandra David-Nel, elle a eu 10 vies, semble avoir tout fait et tout vécu. Mais à 100 ans, elle demande le renouvellement de son passeport prêt à repartir. Sa maison-musée se visite à Digne. Respect, rien d'autre à dire. Grand respect.
Énorme.
Énorme, oui. Vous pouvez retrouver sur YouTube une interview qu'elle a faite pour la télé 1 an ou 2 avant sa mort.
D'accord.
Alexandra David-Nel. Alors, changeons de sujet et revenons à d'autres formes naturelles peu courantes. Vous avez à Archailles des marnes que l'on appelle des robines. Alors, des marnes, c'est des terres tendres. On parle aussi de terres noires. Si vous allez sur ma vidéo, allez-y, vous verrez. Alors, ces terres noires sont ravinées, mises à nu par l'érosion, et c'est un véritable terrain de jeu, un peu lunaire et envoûtant aussi. Zone des montagnes russes, ludiques, mais aussi un dédale, un petit peu labyrinthique, des badlands, recherchés par les vététistes, les plus techniques quand même, hein, pour avoir une certaine aisance. Et puis vous avez une autre clue, on a parlé de la clue de Verdache, vous avez celle de la clue de Barle. C'est un défilé impressionnant de falaises. Ce sont des verrous, ces deux clues, qui ont freiné les communications jusqu'à la fin du 19e, lorsque les routes les ont franchies. Et enfin, le vélodrome, ainsi appelé du fait de sa forme très spectaculaire. Il est connu mondialement. Il faut se le gagner, une bonne heure de marche. Et faute de temps, manque de temps, je ne l'ai pas fait. Vous ne verrez pas d'image sur ma vidéo, je le regrette, mais j'ai perdu du temps, je me suis trompé de chemin et...
D'accord, donc t'as pas pu...
Donc j'ai pas fait d'image.
Ouais, on rappelle que tes vidéos, comme ça, elles paraissent toutes belles, toutes mignonnes, simples, mais souvent, c'est de la galère pour accéder au lieu.
Il faut ça pas m'arrive.
L'oublier. Il faut pas l'oublier.
Oui, oui, ça m'arrive.
Ce n'est
oui,
pas
oui.
simple.
Oui, oui. Une vidéo, ça me prend minimum une semaine de mon temps pour faire les images. Voilà. À droite, à gauche.
Et tout ça pour une vidéo de 7-8 minutes, 10 minutes maxi.
Maximum, ouais, 7-8 minutes, oui. Ouais. Oui, oui. Ah, mais c'est mon plaisir.
Mais il faut le rappeler, voilà, que
je
ce n'est
fais
pas
ça.
Simple.
Oui,
c'est
oui,
une passion. C'est une passion.
Mais bon, quand c'est une passion, on ne compte pas.
Voilà.
Alors, autre lieu, alors là, vous avez des images, et même j'ai droné, ça fait de belles images spectaculaires vues en vue aérienne. L'Aimé, village d'Aimé. Ce sont des curieuses tours de poudingue, c'est-à-dire de conglomérats, qui sont dressées à une centaine de mètres de hauteur. On appelle les pénitents. Parce que vraiment, selon la légende, ça représente bien des moines qui ont été pétrifiés par un saint, Saint Donat. On en parlera tout à l'heure, un peu plus tard, parce qu'il y a une chapelle juste en face, la chapelle de Saint Donat. Il les a pétrifiés parce qu'ils s'étaient épris, selon la légende, de belles mauresques qui avaient été ramenées par la croisade par le seigneur du coin. Alors, entre maintenant, on va changer un peu, on va changer. Je vous ai dit qu'on était entre Durance et Verdon. Entre Moustier et Castellane, vous avez les plus belles gorges d'Europe, avec des paysages inoubliables. En tant que merveille naturelle, le Verdon n'a intéressé qu'à partir du fin du 19e siècle. Avant cela, pendant longtemps, les hommes ont évité de s'y aventurer. La rivière est sujette à des crues soudaines, sans échappatoire. Et le premier à en entreprendre la descente de ces gorges, tu le connais, c'est Édouard.
Ouais, Édouard Martel.
Édouard Alfred Martel, en 1905, accompagné d'une douzaine d'autres aventuriers, dont Isidore Blanc, chef d'expédition. L'équipe se lance avec trois barques faites de bois et de toile, absolument pas adaptées pour ce genre d'exploration. Il leur faudra 4 jours d'efforts pour traverser. Isidore Blanc... Il était instituteur à Rougon, c'est un village qui est juste au-dessus de Verdon. Il aura consacré sa vie entière à l'aménagement d'un sentier qui porte son nom, depuis le couloir Sanson, bien connu par les randonneurs, et un point sublime, environ un sentier sur une quinzaine de kilomètres qui va jusqu'au chalet de la Maline, un peu plus loin. Et ce sentier emprunte une partie des tunnels qui ont été creusés au début du XXe siècle. Un chantier hydroélectrique titanesque qui a par la suite été abandonné. Les tunnels restent et permettent de progresser. Alors les gorges du Verdon, c'est le joyau de la Provence. Une profondeur entre 250 et 700 mètres qui propose multiples activités de plein air ou de pleine nature.
Paradis des grimpeurs.
Oui, exactement. Et voilà, pour l'eau vive et aussi pour les photographes.
Ah oui.
Et la visite des beaux villages au-dessus.
Ouais, exact.
Alors, deux mots sur, petit paragraphe sur Alfred Edouard Martel, il faut parler un petit peu de lui. Né en 1859, passionné de géographie et de sciences naturelles. Il fait des études de droit et exerce comme avocat. Mais il était très intéressé par les phénomènes naturels. Il commence par cartographier les grands causses et fait l'exploration, on peut dire, le précurseur de la spéléologie. Il commence par explorer Bramabio, Dargilan, pas d'Irak, et beaucoup d'autres activités de moindre importance. En 4 ans, il dresse la topo de plus de 230 gouffres, c'est-à-dire, c'est énorme. Il publie un bouquin important que tous les spéléos ont lu ou connaissent, Abîme, ouais, où il décrit les merveilles du monde souterrain. Un peu plus tard, il consacrera tout son temps à ses recherches scientifiques. Il dénonce, au début du XXe siècle, il dénonce la pollution des eaux par les cadavres d'animaux que les paysans jetaient dans les gouffres. Il contribuait beaucoup, il contribue à la promulgation d'une loi en 1902 qu'on appelle la loi Martel, qui interdit le jet de cadavres et d'animaux et de détritus dans les grottes. Ouais. Son œuvre, elle est colossale. Combien de plus de 1000 publications et combien de gouffres Martel en France et dans le monde. Voilà, par respect pour lui, nombreux sont les spéléos qui ont baptisé les gouffres Martel.
Ouais, c'est vrai, exact.
Alors, je vais vous parler de lieux de spiritualité. Je vais vous parler de la chapelle de Saint-Donat. Il y a beaucoup de lieux de spiritualité en dehors de la maison d'Alexandra Davinel qui s'appelle Zam Tenzong, à prononcer, ouais, en dehors de sa maison musée et sanctuaire. Vous avez la chapelle de Saint-Donat de Montfort, qui date du XIe, qui est une des plus anciennes de France, en un excellent état de conservation. Et vous avez non loin de là le monastère de Ganagobi, connu pour ses pavements de mosaïques médiévales polychromes, une petite nécropole dans le roc et un point de vue magnifique sur la vallée de la Durance. Son cloître ne se visite plus. Dommage.
D'accord.
Ah, il est fermé par une vitre, on le voit, mais on ne peut plus rentrer parce que bon, c'est un monastère qui est actif.
Ah voilà, normal, d'accord.
Alors, par contre, je vous incite à aller au prieuré de Carluc. Et il est au pied d'une falaise creusée de galeries, d'habitations troglodytes et de tombes. Il semble avoir existé depuis plus de 2000 ans et avoir peut-être été un site druidique. Il y a la présence d'une source qui ne se tarit jamais et une grosse pierre qui aurait peut-être servi d'hôtel de sacrifice, ça renforce cette hypothèse. Toujours est-il qu'au VIe siècle, les premiers chrétiens s'y installent pour vivre en ermite. Et de nombreux convertis s'y sont fait enterrer. Au Xe siècle, ce prieuré est rattaché à Montmajour, proche de Salon de Provence, et ça devient une étape sur la route de Saint-Jacques. Le plus étrange, c'est une galerie creusée dans la roche qui a servi de cloître, d'habitation et de nécropole. On va changer pour vous parler maintenant de lieux d'histoire. L'extraordinaire citadelle de Sisteron qui domine la Durance. C'est une lame rocheuse qui a de tout temps été fortifiée. De la citadelle, la vue est saisissante sur la Haute-Provence. Henri IV, en parlant de cette citadelle, disait d'elle que c'est la plus puissante forteresse de mon royaume. Il reste tout un ensemble d'ouvrages d'époques très diverses. Du château des comtes de Provence du XIIe qui faisait face au Dauphiné, il reste le donjon et le chemin de ronde. Cette citadelle a dû faire face au XIVe aux bandes d'armées qui pillaient la France pendant la guerre de Cent Ans. Plus tard, Bayard, chevalier Bayard, y tient garnison. Au XVIe, elle devient le refuge des protestants. Elle est assiégée deux fois avec pas mal de dommages. Henri IV ordonnera des travaux de restauration et des défenses bastionnées seront étagées. Après l'invasion savoyarde en 1692, la Savoie ne faisait pas partie de la France, Vauban conçoit un plan de défense, mais faute de moyens, il n'y a que la poudrière qui a été réalisée. Au milieu du 19e, la Savoie et le comté de Nice, qui ne sont toujours pas français, on se dit il faut relever les courtines, bâtir des casemates, on les bâtit, et on fait un escalier souterrain qui est creusé dans la roche, tout ça on peut le s'y balader et le visiter. En 1944, elle est bombardée par les Alliés. Heureusement, elle a été magnifiquement restaurée.
D'accord. Est-ce qu'on voit des images sur ta vidéo ?
Bien sûr.
Ah.
Bien sûr. Tout ça, vous avez des images, oui, de tout ça.
Droné ?
La citadelle, non.
Non, ok.
Non. Voilà. Je répète, Rando VTT Vidéo, mon site. Voilà. Plus de 170 vidéos.
Eh bien, mon Dieu.
Et pour terminer, parce qu'on est entre la Durance et le Verdon, au milieu, il y a le plateau de Valensole.
Ah, ben
alors
oui.
Là, je gardais le meilleur pour la fin. Et de ça, vous avez des images et de drones sur ma vidéo. Autrefois, ce plateau, il était couvert d'amandiers. Il est aujourd'hui couvert de lavande et de blé. Au printemps, on aperçoit les Alpes enneigées qui s'étirent à l'horizon face aux amandiers en fleurs. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Mais c'est début juillet, lorsque les lavandes, chargées d'effluves caractéristiques, couvrent le plateau d'un manteau mauve, et les blés transforment en or sous le soleil d'azur, la carte postale, elle est somptueuse. Ajoutez à ça, à ce décor provençal, 300 jours de soleil par an, des eaux couleur vert émeraude, le parfum du thym, au secours, stop, j'y crois plus, je repars.
Ah oui, tu pourrais.
Alors sur ma vidéo, des images de VTT, des monotraces, en sous-bois, dans des pierrailles ensoleillées du côté de Château Arnoux, et puis aussi, pour finir, à la fin,
la fameuse
aquarelle de Nadine qui va figer le portrait d'Alexandra Davinéel en tenue tibétaine. Voilà. Donc, mois prochain, changement de décor. Je vous amène sur les traces de Modestine.
C'est qui et c'est où?
Je ne dis pas. Je vais juste vous dire que c'était une sacrée tête de mule.
Ah, j'en connais une autre.
Voilà, pour la 23e bougeotte.
Merci Christian, merci. Je rappelle, bon, ta vidéo, on la retrouve à Rando VTT Vidéo.
Oui.
Voilà, tout simplement, on tape ça, rien que ça, on trouve ça sur le site. On y tombe dessus, certainement.
Absolument.
Voilà, si on tape sur un serveur Rando VTT Vidéo, on doit tomber sur tes vidéos.
Absolument.
Voilà. On peut la retrouver aussi sur Radio Galaxy 31, dans rubrique
Découverte, Évasion, La Bougeotte.
Voilà. Et je vous rappelle que ces émissions sont en diffusion sur les ondes de Radio Galaxy 98.5 le premier mardi 9h30, deuxième jeudi 14h30, troisième samedi 17h30 et quatrième dimanche 7h pour les lève-tôt.
À
merci
bientôt.
Christian, à bientôt.